Valérie Rerbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante féministe et vous publiez Télé-réalité, la fabrique du sexisme aux éditions Les Insolentes. Un essai dans lequel vous décortiquez tout le sexisme de ces programmes devant et derrière la caméra. D'où est venue cette idée ?
Alors en fait, il y a exactement un an, certaines candidates de télé-réalité ont lancé un MeToo. Elles ont essayé de lancer un MeToo. Et une seule rédaction en a parlé dans les médias généralistes. La plupart des rédactions qui en ont parlé, c'est les médias People. Et ils ne maîtrisent pas exactement ce genre de sujet. Et j'étais assez étonnée du désintérêt des rédactions. Parce que je me disais, il y a quand même vraiment là un sujet. Puis les autres MeToo sont relayés. Donc c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'il y avait des événements sexistes ou racistes dans la télé-réalité, ça arrive très souvent, les gens les attribuaient systématiquement à la bêtise des candidats, sans comprendre déjà que la bêtise n'a rien à voir avec l'homophobie ou le sexisme, et ensuite que les télé-réalités sont montées donc par des gens qui, eux, sont cultivés, eux, ne sont pas forcément bêtes, et pour autant, ils conservent ces images, ou même vont mettre en avant des séquences qu'ils ont conçues comme sexistes.
Vous regardez ces programmes depuis longtemps ?
Alors, je regarde pas tous les programmes, parce que la télé-réalité est un domaine extrêmement vaste. C'est-à-dire, quand on passe à la télé-réalité, on pense aux Marseillais, aux Anges et anciennement au Loft. Mais la télé-réalité, c'est aussi Top Chef, The Voice.
Alors, pour nos auditeurs qui sont un peu éloignés, il y a donc des émissions de cuisine,
des émissions de télécrochet, des émissions de coaching autour de la vente d'un appartement, autour du relooking, etc. Il y a énormément d'émissions.
Et dans toutes ces émissions-là, est-ce qu'on trouve un fil conducteur dans ce qui concerne l'image de la femme ?
Comme dans beaucoup de productions culturelles, oui, l'image des femmes est extrêmement conventionnelle, et en particulier dans les émissions de coaching et les émissions de vie collective, c'est-à-dire les Marseillais, l'ancien Loft en fait. Dans ces émissions-là, on s'attend vraiment à ce que les femmes et les hommes aient des rôles traditionnels qui n'en sortent pas. On est un peu dans une télévision des années 50 quand même, malgré les apparences de gens extrêmement modernes, qui font beaucoup de chirurgie, qui... Non, ça reste une télévision très traditionnelle.
Dans les émissions de coaching qui sont très variées, où on peut aider les gens dans la maison est sale, où dans les enfants sont difficiles à élever, les gens qui veulent changer de look ou vendre leur maison, là la question c'est pas la chirurgie esthétique mais le cliché en permanence.
C'est ça en fait, donc ces émissions sont vraiment à destination des femmes des classes populaires, tant au niveau des candidates que du public, c'est d'ailleurs souvent des émissions qui sont diffusées l'après-midi. M6 s'est fait une spécialité de ce genre d'émissions, il y en a beaucoup moins sur TF1 par exemple. Et on va vraiment expliquer aux femmes des classes populaires que leurs goûts ne conviennent pas, qu'elles s'habillent mal, qu'elles maîtrisent pas les codes, que leur décoration est trop chargée, trop connotée, trop vieillotte, qu'elles savent pas éduquer leurs enfants. Et on va leur transmettre l'illusion que des coachs, soi-disant bienveillants, vont leur transmettre leur capital culturel, hein, selon la phrase de Bourdieu, pour s'élever dans la société, pour réussir socialement, hein, je mets des guillemets à tout ça. Typiquement, dans les reines du shopping, c'est ce qui va se passer. La présentatrice, Christina Cordula, est vraiment là pour tester si les candidates maîtrisent les codes de la féminité bourgeoise. Et si elles les maîtrisent pas, elles vont être impitoyablement moquées et raillées. Et donc, c'est des programmes qui fonctionnent à la fois sur l'adhésion, parce qu'on peut se reconnaître dans ces candidates, et puis aussi sur le rejet, en disant « Ah, mais moi, par exemple, je maîtrisais les codes, elle ne les maîtrise pas, etc. » C'est des émissions qui sont assez perverses dans leur fonctionnement, parce que oui, elles fonctionnent vraiment sur l'humiliation des candidates.
Dans la norme dont on parlait tout à l'heure, il n'y a guère de place que pour les blanches. Vous dites que les femmes noires tiennent souvent le rôle de la personne agressive.
Je dirais les personnes noires et les personnes arabes. Il y a peu d'asiatiques dans la télé-réalité de manière générale. Et ça correspond au cliché pour les femmes noires, de la femme noire en colère, hein, qui a été développée aux États-Unis. Et c'est vrai que certaines candidates s'en sont plaintes. Il y a une candidate arabe de Koh-Lanta, Karima, qui a carrément interpellé la production en leur demandant « Mais pourquoi vous montrez des images de moi qui suis tout le temps en colère ?» alors qu'il y avait plein de moments où j'étais sympathique. Dans les reines du shopping, souvent, c'est celles qui sont présentées comme étant le plus moqueuses. Et ça, c'est paradoxal parce que d'un côté, il y a sans doute plus dans ce type de programme des personnes noires et des personnes arabes que dans d'autres programmes, mais les images qu'on a d'elles sont extrêmement stéréotypées. Donc c'est aussi un problème.
Quelle est la réaction de la production quand des questions de ce type sont posées ?
Aucune.
Certains programmes sont très suivis par les adolescents, et c'est ce qui est montré des rapports entre filles et garçons qui peut être dangereux, notamment parce que cela brouille la notion de consentement. Vous évoquez des auditions de patrons de chaîne en 2018 par le CSA. Est-ce que ça sert à quelque chose ces auditions-là ?
Alors le problème, c'est que le CSA, il y a quelques années, avait fait un rapport sur les émissions de télé-réalité, en particulier les émissions de vie collective, comme Les Anges ou Les Marseillais, où ils avaient noté des problèmes extrêmement importants de sexisme et de racisme. Et là, ils ont refait un rapport il y a peu de temps pour les 20 ans du Loft, donc ça devait être 2021 à peu près, où ils ont dit que les choses allaient beaucoup mieux. Or, de mon point de vue, c'est vraiment pas le cas. Je vous donne des exemples, vous parliez du consentement. Ben, c'est vraiment dans ce genre de programme où, et ça existe aussi dans Marié au premier regard, ce qui est encore pire parce que c'est carrément encouragé par les psys de l'émission, où il est explicitement dit que si les garçons sont gentils, les filles devraient avoir des rapports sexuels avec eux. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu dans Marié au premier regard et qu'on voit dans les émissions à destination des adolescents, où les filles subissent une pression du groupe, où on lui dit « Ah mais quand même, ce garçon-là, il est bien sympa, tu devrais coucher avec lui ». Et ça, ben, pour des adolescents, mais aussi pour des adultes, c'est un vrai problème parce que ça entretient l'idée que les femmes devraient du sexe aux hommes.
Oui, parce que quand on parlait de ces programmes qui sont très suivis, ça représente en heures de production télévisée par an quelque chose qui est supérieur au sport, par exemple.
Bien sûr, et en plus, il faut rajouter que maintenant, la télé-réalité, ça n'est plus qu'à la télé. C'est-à-dire que on retrouve ça sur les réseaux sociaux, les candidats font eux-mêmes leur propre télé-réalité sur leur Snapchat, sur leur Insta, donc ça ne s'arrête jamais et les jeunes peuvent en regarder en continu s'ils veulent, en fait.
Vous l'évoquiez au tout début de l'interview, cette dénonciation d'une sorte de MeToo dans la télé-réalité, est-ce qu'il y a eu des suites ?
Il y a eu des suites, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'une des candidates qui avait lancé le MeToo a été condamnée pour diffamation, pour injure à l'égard d'un des hommes dont elle disait qu'il l'avait harcelée. Je crois que c'est en appel à l'heure actuelle. Et sinon, malheureusement, non, j'ai pas entendu parler de suites aussi parce que cette même candidate est partie dans un discours un petit peu complotiste sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de sujets, le Covid, etc. Alors, il y a visiblement eu quelques réactions au niveau de certaines productions. Un candidat qui était suspecté d'avoir été violent avec une de ses anciennes petites amies a été écarté. Par contre, un candidat sur lequel porte plusieurs accusations de viol, d'agression sexuelle, lui a été en diffusion il n'y a pas longtemps. Et un autre candidat qui a lui révélé avoir été violent avec une de ses anciennes petites amies, après un an d'absence, est revenu dans beaucoup de programmes. Donc il y a c'est pas passé grand-chose en télé-réalité au niveau du MeToo, malheureusement.
Si j'ai bien compris, la plupart des femmes qui sont des vedettes de la télé-réalité sont à la fois riches, célèbres. Est-ce qu'elles, elles n'ont pas intérêt à faire avancer cette cause féminine ?
Le problème, c'est qu'elles ne sont pas très politisées pour la plupart d'entre elles. Donc, je ne sais pas si elles ont vraiment conscience de ce qu'elles peuvent avoir subi, comme beaucoup de femmes dans d'autres milieux. La deuxième chose, c'est que c'est une constante qu'on rencontre dans tous les lieux où il y a eu des violences sexuelles, c'est que les femmes commencent à en parler lorsqu'elles en sont sorties, en fait. On a eu ça dans le milieu religieux, même si le parallèle peut faire sourire. C'est que les religieuses qui ont subi des violences sexuelles en ont parlé une fois après en est sorti. Et dans la télé-réalité, celle qui a révélé qu'un candidat avait commis une tentative de viol ne fait plus de télé-réalité à l'heure actuelle et ne compte pas en refaire. Et non, elles n'ont pas intérêt à en parler parce que les candidats qu'elles peuvent accuser génèrent beaucoup d'argent, tant pour eux que pour les boîtes de production, pour les chaînes de télé, pour les agents, etc. Et puis elles savent que, comme toutes les femmes qui portent plainte, elles passeront pour les chieuses, pour les hystériques, et qu'elles risquent d'être grillées à peu près partout. Donc non, elles n'ont pas intérêt à en parler. Ça serait plus à toute la société civile, c'est-à-dire à nous tous et toutes, et aussi aux médias généralistes, à lancer des enquêtes là-dessus, qu'à elles-mêmes, parce que c'est leur faire porter. Il faut comprendre que la plupart des candidates de télé-réalité sont des femmes qui viennent de milieux extrêmement populaires, qui n'ont pas fait d'études, et qui là voient arriver une manne d'argent absolument démentielle. Donc pour elles, porter plainte, c'est littéralement se griller et voir s'interrompre tout ce dont elles ont rêvé. Donc très peu d'entre elles le feront en fait, et on peut les comprendre.
Valérie Rey-Robert, merci.
Merci.
Je rappelle le titre de votre essai, Télé-réalité, la fabrique du sexisme, paru aux éditions Les Insolentes.